pour ceux qui, par hasard, n'auraient pas entendu parler de lui, est détenteur d'un DEA de physique théorique et d'un doctorat en philosophie des sciences. Il nous en parlera un petit peu tout à l'heure. Il a enseigné pendant plusieurs années la physique quantique et la physique des particules à l'École centrale de Paris, puis la philosophie des sciences. Il est actuellement physicien au commissariat à l'énergie atomique, où il dirige le laboratoire sur les sciences de la matière à Saclay. Parmi... Non, c'est pas ça ?
De recherche sur les sciences de la matière.
De recherche sur les sciences de la matière, voilà, à Saclay. Parmi ses travaux, on peut noter sa participation à la conception du grand collisionneur de particules européens, le LHC2. Il est spécialiste de la question du temps en physique et l'auteur de nombreux essais. Il est par ailleurs membre du conseil scientifique de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Par ailleurs, il a reçu plusieurs prix et distinctions, dont le titre de chevalier de la Légion d'honneur en 2010. Il est aussi auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages aux titres conçus pour nous interpeller, parmi lesquels « Le temps existe-t-il ?»« Rugby quantique ?»« La science nous menace-t-elle » et « Quel temps font-ils ?» Bonjour, monsieur Klein.
Bonjour.
Alors, je vais commencer par une question très simple, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. S'il est possible de l'expliquer en moins d'un semestre de cours, qu'est-ce que la philosophie des sciences ?
Bon, c'est une drôle de question pour un dimanche matin, mais je vais essayer d'y répondre. Alors, c'est pas la philosophie toute seule, c'est pas la science toute seule, c'est la mise en contact de la physique, si on prend la physique, et de la philosophie sur certaines questions. C'est-à-dire, il ne faut pas imaginer que la philosophie pourrait coloniser la physique et parler à sa place. Il ne faut pas non plus imaginer que la science pourrait détrôner la philosophie, notamment dans le domaine de la philosophie morale, par exemple, où la science n'a pas grand-chose à dire. Mais il se trouve, et je pense qu'ici vous êtes bien placé pour le comprendre, qu'il y a un certain nombre de questions. Vous avez cité celle du temps, on pourrait ajouter la question de la matière ou la question de la réalité, à propos desquels la physique apporte des résultats théoriques ou bien expérimentaux qui viennent changer l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à une question philosophique. Par exemple, si vous posez la question « le temps existe-t-il ?», c'est une question qui a été abordée par les philosophes. Certains ont trouvé des arguments pour dire que le temps ne pouvait pas exister. D'autres ont trouvé des arguments pour dire que le temps existait nécessairement. Bon, et faire de la philosophie des sciences, c'est finalement considérer que l'esprit n'est pas seul. C'est-à-dire il y a un en dehors de l'esprit, et cet en dehors de l'esprit, c'est le réel. Le réel, c'est ce que les physiciens et les scientifiques en général explorent. Et quand on comprend des choses de la réalité, ça peut faire retour sur l'esprit. C'est-à-dire ça peut changer nos façons de penser, de répondre à certaines questions philosophiques notamment. Et donc, en tout cas, ma vision des choses, c'est que la philosophie des sciences, de la physique en particulier, c'est la démarche qui consiste à regarder les situations dans lesquelles la physique fait des découvertes philosophiques négatives. Et elle ne fait pas des découvertes philosophiques qui vont complètement changer la philosophie, mais elle vient, sur certains points, dire ce qu'on ne peut plus penser. L'exemple le plus simple que vous pouvez imaginer, c'est la découverte de l'atome. Les philosophes, avec les scientifiques, d'ailleurs, pendant 2 millénaires, se sont battus autour de l'atome. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Certains ont trouvé que l'hypothèse était absurde. D'autres ont imaginé qu'elle était obligatoire. Et puis un jour, une expérience faite par Jean Perrin, à la suite d'un article rédigé par Einstein en 1905, vient trancher la question. Et donc, voilà, l'atome existe. Certes, il n'a pas les propriétés qu'on lui attribuait auparavant, mais sa réalité ne fait plus de doute. Et donc, on a là une information qu'il faut prendre en compte, dont il faut prendre acte pour continuer à penser la matière.
Et donc, c'est la façon dont vous venez mener vos travaux, c'est-à-dire que vous avez une double vision des choses, un petit peu comme nous essayons, on voit qu'il y a une dualité entre la science-fiction et la science, d'un certain côté.
Bon, la séparation entre la science et la science-fiction, je ne vais pas trop l'aborder en présence de Roland Lehoucq, hein, qui est le spécialiste. Hein, moi, je vais dire des banalités. Mais je pense que la science moderne, enfin, je vais parler de la physique moderne, c'est une sorte de science-fiction. Alors, pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce que un philosophe des sciences que j'aime beaucoup, qui s'appelait, puisqu'il est décédé, Alexandre Coiré, expliquait que la physique de Galilée, disons la physique moderne, c'est-à-dire celle que Galilée a enclenchée, est une physique qui fait le pari qu'on peut comprendre le réel empirique, le réel qui nous est donné, le réel qu'on observe autour de nous, par l'impossible. C'est-à-dire par des lois qui contredisent l'observation. Et si vous prenez d'ailleurs n'importe quelle loi physique que vous connaissez, la loi de la chute des corps, le principe d'inertie, qui vous dit qu'un corps qui n'est soumis à aucune force, un mouvement rectiligne uniforme indéfini, si vous prenez a fortiori les lois de la physique quantique qui vous disent qu'on peut décrire une particule comme étant à deux endroits à la fois, si vous prenez les lois de la relativité restreinte ou de la générale, vous trouverez des résultats semblables, c'est-à-dire des résultats qui, lorsque vous les écoutez pour la première fois, vous semblent faux. Par exemple, quand vous faites une expérience de chute des corps, en faisant tomber en même temps une boule de pétanque et une balle de tennis, vous voyez bien que la boule de pétanque va plus vite que la balle de tennis. Et la vraie loi de la chute des corps tirée de l'observation, c'est celle qui nous dit qu'un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus lourd. C'est ça la vraie loi. Et puis un jour arrive Galilée qui pose la question suivante. Cette loi est certes conforme à l'observation, mais c'est pas trop ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si elle est vraie. Et contrairement à ce qu'on raconte d'ailleurs dans les livres, il n'est jamais monté au sommet de la tour de Pise pour faire des expériences, parce que s'il avait fait les expériences, leur résultat aurait confirmé la thèse selon laquelle les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Donc il a simplement fait une expérience de pensée, c'est-à-dire il a imaginé qu'Aristote avait raison en disant que les corps tombent d'autant plus vite qu'ils sont plus lourds, et puis il a pris donc un objet très massif, par exemple une boule de pétanque, une balle de tennis qui est plus légère, il met une ficelle entre les deux, et il imagine qu'il lance le tout dans le vide. Enfin, pas dans le vide, justement, dans l'air. Alors, si on croit Aristote, on doit en déduire que, puisque l'ensemble formé par les deux objets est plus lourd que la boule de pétanque, il va tomber plus vite que la boule de pétanque. Mais en même temps, pendant la chute, la balle de tennis qui est plus légère va tomber moins vite, la corde va se tendre, et la balle de tennis va faire parachute. Et donc l'ensemble formé par les deux va tomber moins vite que la boule de pétanque. Donc il y a une contradiction que personne n'avait vue avant. Et la seule façon de résoudre la contradiction, c'est de dire que tous les objets, quelle que soit leur masse, tombent à la même vitesse. Et cette loi, si on y croit, oblige à réinterroger l'observation. Et à comprendre que quand on fait tomber des objets, il y a certes la gravité qui les fait tomber tous à la même vitesse, mais il y a aussi l'air qui crée des forces qui seront différentes selon qu'on a affaire à un objet très massif ou à un objet moins massif, et que c'est ces forces-là qui sont responsables de la différence de chute. D'ailleurs, à ce propos, on peut regretter que M. Baumgartner, qui a sauté de 39 000 mètres il y a quelques jours, n'ait pas pris dans sa main une plume et puis une bille de plomb dans l'autre main qu'il aurait lâché au moment de l'envol pour qu'on voit que dans les premières phases, ces trois objets tombent presque à la même vitesse et quand ils rencontrent des couches d'air un peu plus denses, là, la différence de vitesse s'accentue. Bon. Et donc voilà, c'est ça qui fait que la science moderne, la physique moderne, elle est étrange d'emblée au sens où elle contredit l'observation. Ou en tout cas, elle oblige à retravailler les faits pour comprendre comment les lois physiques qui les contredisent s'appliquent à eux néanmoins. Alors vous pourriez dire que cette histoire de la chute des corps et des vieilleries, ça date de 1604. Hein. Ça, on le sait depuis peu de temps, puisque, comme vous le savez, peut-être Galilée a écrit cette loi dans des brouillons qu'on n'arrivait pas à classer parce qu'ils les avaient pas datés. Et ce sont des physiciens italiens qui ont résolu le problème, c'est une anecdote mais elle est intéressante, ils ont résolu le problème il y a peu de temps en prenant les brouillons de Galilée et en faisant une analyse chimique de l'encre qu'il avait utilisée. Et pour ça, ils ont bombardé les feuilles de brouillon par des protons Et l'angle de diffusion des protons traversant l'encre dépend des éléments chimiques qui sont dans l'encre. Or, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de contrôle qualité pour l'encre. Et donc, tous les ans, Galilée se faisait livrer de la poudre qu'il diluait dans l'eau pour faire de l'encre. Et d'une année sur l'autre, la composition de la poudre était pas toujours la même. Alors ça n'aide pas parce que ça ne dit pas à quelle date ont été fabriqués les écrits, les manuscrits de Galilée. Mais en fait, tous les ans, il faisait un bilan comptable de ses activités qu'il est obligé de dater. Et donc les physiciens ont comparé l'encre des bilans comptables qui étaient datés et l'encre des brouillons de physique qui n'étaient pas datés. Et par une longue reconstruction, ils ont fini par conclure que Galilée a énoncé la loi de la chute des corps en 1604, mais ils ont publié ce résultat en 2005, et donc il était trop tard pour fêter le quatrième centenaire de la découverte de la loi de la chute des corps.
Extraordinaire. Alors,
attendez, si tu peux juste ajouter une chose. J'étais en train de vous dire, avant d'être pris par cette anecdote, que cette histoire de Galilée peut sembler extrêmement ancienne et on pourrait croire qu'elle correspond à des situations qu'on ne retrouve jamais aujourd'hui. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est faux. Vous avez entendu parler du boson de Higgs qui a été découvert expérimentalement en juillet 2012, 48 ans après que des physiciens aient prédit son existence. Je vous fais l'histoire très brièvement, mais vous allez voir qu'elle ressemble à l'histoire de Galilée. Dans les années 60, on comprend que la façon qu'on a de modéliser les interactions entre particules, notamment l'interaction électromagnétique et l'interaction nucléaire faible, à partir de groupes de symétrie mathématique, dans ce qu'on appelle des théories de jauge, peu importe le vocabulaire, mais ces théories ont l'air de bien fonctionner au sens où elles rendent compte des résultats expérimentaux. Mais quand on essaie de regarder ce qu'elles impliquent à propos de la masse des particules élémentaires, on voit qu'il y a un problème. Parce que ces théories impliquent, si leur formalisme est correct, que la masse des particules élémentaires doit être nulle. L'électron doit avoir une masse nulle, les quarks, qu'on ne connaissait pas à l'époque, auraient dû avoir une masse nulle, etc. Or, c'est pas du tout ce qu'on observe, puisque quand on mesure la masse des particules élémentaires, à l'exception de quelques cas particuliers, comme le photon, on trouve une masse non nulle. Et donc, on était dans une situation où il y avait une contradiction entre la théorie et les mesures. Un peu comme du temps de Galilée, où sa loi dit que les corps tombent à la même vitesse et on voit qu'ils ne tombent pas à la même vitesse. Donc, il y avait le même type de contradiction. Et quand on est devant une telle contradiction, en général, on remet en cause la théorie en disant « les faits sont premiers ». C'est eux qui sont la donnée de base de la science. Et donc la théorie doit reproduire les faits. On voit que ce n'est pas si simple. Parce que les faits sont toujours interprétés. Et si on se trompe dans l'interprétation, on fait dire aux faits des choses qu'ils ne disent pas. Et donc, je reviens aux années 1960, la plupart des physiciens disaient le modèle standard de la physique des particules, ces équations qui impliquent que la masse des particules élémentaires doit être nulle, sont fausses. Il faut changer de modèle, il faut trouver une autre théorie, etc. Mais il y a trois physiciens, dont l'un qui s'appelle Peter Higgs, qui va donner son nom au boson de Higgs, qui se souviennent de Galilée, et qui se souviennent que le pari de la physique, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. Et que donc, il se pourrait bien que les équations du modèle standard soient correctes, mais que nous, physiciens, nous n'avons pas bien compris ce qu'est la masse. Ils vont faire un travail théorique absolument génial, qui tient en une page et demie, alors leurs articles de l'époque, c'est une page et demie de calcul, dans lequel ils font l'hypothèse que la masse des particules n'est pas une propriété intrinsèque des particules. C'est pas une propriété qu'elle possède en elle-même, comme on l'apprend à l'école. On apprend à l'école qu'il y a un lien insécable entre l'idée de matière et l'idée de masse. On a du mal à imaginer ce que serait de la masse qui ne s'incarnerait pas en particules, et on a du mal à penser ce que serait une particule de matière qui n'aurait pas de masse. Donc pour nous, particule, matière, masse, ça fait une espèce d'entité unique au sens où on ne peut pas imaginer qu'une seule de ces trois composantes puisse exister sans les deux autres. Ben, eux disent peut-être qu'on s'est gouré. Peut-être que les particules n'ont pas de masse, je parle des particules élémentaires, peut-être que les équations ont raison, simplement elles acquièrent ce que nous appelons une masse par le fait qu'elles interagissent avec le vide. Et du coup, le vide n'est pas vide. Il y a quelque chose dedans avec lequel les particules interagissent. Et du coup, dans leur idée, la masse n'est pas une propriété primitive des particules, c'est une propriété secondaire qui résulte d'une interaction qu'elles ont avec le vide. Donc ils imaginent que dans le vide, il y a un champ qui est partout le même, homogène, c'est ce qu'on appelle un champ scalaire, au sens où il est défini par une seule variable, qui a la même valeur en tout point, on l'appelle le champ de Higgs, et en fait, les particules sont couplées à ce champ, et plus leur interaction avec ce champ est forte, et plus leur masse est élevée. En fait, l'interaction avec le champ leur donne de l'inertie, les freine, et les empêche d'aller à la vitesse de la lumière, ce qui serait le cas si leur masse était nulle. Et donc la masse, c'est simplement une mesure du couplage entre des particules sans masse et un champ qui est partout présent. Donc l'interprétation de ce qu'est la masse est complètement modifiée. Et il se trouve que, comme ça a été le cas pour Galilée, après 48 ans de recherche, on a détecté, non pas ce champ lui-même, mais les quantas de ce champ qu'on appelle les bosons de Higgs. Donc c'est une découverte vraiment fondamentale, d'une part parce qu'elle nous renseigne sur le vide, et d'autre part parce qu'elle vient confirmer que la démarche entreprise par Galilée, c'est-à-dire contester l'observation à partir de lois physiques qui disent le contraire de ce qu'elles montrent, c'est la bonne démarche en physique. Et du coup, et ça sera ma conclusion pour cette question-là, ça crée une espèce de pont entre la science et la science-fiction au sens où la science, la physique, est une sorte de science-fiction qui met en avant des lois qui ne sont pas directement perceptibles dans l'environnement.
C'est fantastique, fascinant.
Mais non, mais je dois vous dire que j'ai une migraine terrible, mais j'ai pris des médicaments, mais le temps qu'ils agissent me semble assez long.
Alors, ben, nous allons parler de temps, alors. Je vous propose, puisque le temps semble être au cœur de vos travaux. Pour nous, c'est pareil, nous avons, de par notre observation, l'impression que le temps a un certain nombre de concepts, qui est sa linéarité, son déroulement inéluctable. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est le temps? Quelle est votre vision du temps?
Mais moi, je n'ai pas de vision du temps, au sens où tout mon travail, c'est de démontrer que les visions qu'on nous propose sont fausses. Donc, j'en ai pas. Plus sérieusement,
qu'est-ce que ce n'est pas, le temps, alors?
Ben justement, il y a plusieurs façons d'aborder la question du temps. Il y a la possibilité d'essayer de le sentir à partir de l'expérience qu'on en a. Il y a la possibilité d'essayer de trouver ses propriétés à partir du langage. Qu'est-ce qu'on dit du temps, finalement, dans le langage quotidien? Et puis, il y a une autre possibilité qui est de tenter de dire ce que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler. Et évidemment, comme elles ne peuvent pas parler, on n'est jamais sûr que ce qu'on leur fait dire est exact. Mais disons que moi, pendant une dizaine d'années, avec d'autres, je me suis posé cette question. Que diraient les équations de la physique si elles pouvaient parler? Prenez par exemple les équations de Newton, qu'on apprend au lycée, donc les équations fondamentales de la dynamique, celles qui nous disent que la force est proportionnelle à l'accélération, plutôt que l'accélération que subit un corps est proportionnelle à la force qu'il subit. Bon. Dedans, il y a le temps qui intervient dans l'accélération. Quelles sont les propriétés de ce temps et que nous dirait cette équation si on lui posait la question de savoir pour toi, qu'est-ce que c'est que le temps? Et je pense que là, on peut être assez sûr de soi en disant que cette équation commencerait par nous dire de nous méfier du langage. Parce que le langage fait dire au temps toutes sortes de choses, lui attribue toutes sortes de propriétés que manifestement il ne peut pas avoir. D'abord parce que nous confondons le temps et les phénomènes temporels. Quand nous voyons un phénomène cyclique, par exemple, ou périodique, nous disons que le temps est cyclique. Mais ce n'est pas parce qu'un événement se répète que l'instant auquel il se produit se répète. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'un événement est cyclique que le temps lui-même est cyclique. De même, on a souvent tendance à confondre le temps et le changement. Quand plus rien ne change, quand plus rien ne se passe, on dit que le temps s'arrête. Il y a d'ailleurs beaucoup de romans de science-fiction qui mettent en scène l'arrêt du temps, et c'est toujours assez rigolo, parce que le temps s'arrête, mais ça continue, il se passe des tas de choses. Il y a une histoire. Donc il faut qu'on nous explique comment il peut y avoir une histoire si le temps s'est arrêté. Bon. Etc. Donc, il faut se méfier du langage, d'une part parce que il est imprécis, mais aussi parce qu'il nous ensorcelle. C'est-à-dire notre façon de dire les choses détermine notre façon de les penser. Et donc, si on les dit mal, ou si on répète des phrases qu'on répète depuis la nuit des temps sans voir si elles sont vraies, eh bien, on pense mal le temps. Et donc, il faut faire comme Galilée. Galilée dit, tiens, la chute des corps, la loi d'Aristote fonctionne, elle est conforme aux observations, très bien. Mais est-ce qu'elle est vraie? C'est pas parce qu'elle est conforme aux observations qu'elle est vraie. De même, nous disons que le temps passe. Et d'ailleurs, c'est cette propriété de passer qui caractérise, selon nous, le temps, par opposition à l'espace, qui ne passe pas. Mais est-ce qu'il est vrai que le temps passe? On peut s'amuser à se poser la question. Et s'il passe, qu'est-ce qui fait qu'il passe? Quel est le moteur du temps? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas rester présent au même instant présent? Bon, ça, c'est des questions sur lesquelles il faut de temps en temps s'arrêter pour voir si notre façon d'en parler tient la route ou s'il convient de reprendre certaines choses. Par exemple, le temps de Newton, je reviens à lui, à la fameuse équation. Là. Je vois qu'il y a des jeunes dans l'assistance, donc il y en a certains qui sont sans doute en terminale. En terminale, d'après mon souvenir, on voit pas mal d'équations de physique. Physique classique, mécanique, électromagnétisme peut-être, dans lesquelles il y a le paramètre T. Vous avez déjà remarqué ça? Le paramètre T qui désigne le temps. Et il y a une chose très étonnante avec ce paramètre. Je ne sais pas si on vous l'a fait remarquer, mais c'est que ce paramètre ne dépend pas du temps. T ne dépend pas du temps. Ça veut dire que quand vous écrivez une équation de physique, vous ne précisez pas pour quel instant vous supposez qu'elle est vraie. C'est-à-dire vous écrivez une équation dont vous postulez, en ne faisant pas dépendre T de T, qu'elle est vraie pour tous les instants du temps. C'est-à-dire que en écrivant que l'équation ne dépend pas du temps, ou que le paramètre T qu'elle contient ne dépend pas du temps, vous êtes en train de supposer que les lois physiques ne dépendent pas du temps. Et qu'elles sont les mêmes aujourd'hui qu'elles étaient hier, il y a 1 milliard d'années, ou qu'elles seront dans 1 milliard d'années. D'accord ? Et ça, c'est garanti par le fait que Newton, qui est le premier à avoir écrit une équation contenant le paramètre T, suppose que le temps est homogène. C'est-à-dire que tous les instants du temps ont le même statut. Et donc, alors même que le langage courant, comme je l'ai dit tout à l'heure, confond le temps et le changement, Newton vient nous dire que le temps est la seule chose dans l'univers qui ne change pas. D'accord ? Évidemment, les instants du temps sont constamment différents. Tout instant présent est un instant inédit. Mais il a le même statut que les instants d'avant et que les instants d'après. Et donc là, vous avez le cas typique d'une contradiction entre le temps tel qu'il est décrit mathématiquement dans les équations de Newton et ce que nous disons d'ordinaire du temps. Le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Et d'ailleurs, quand on dit que le temps passe, qu'est-ce qu'on veut dire ? On veut dire que les trois moments du temps, qui sont le futur, le présent, le passé, se succèdent dans le temps. Une sorte de transit qui fait que le futur devient du présent, qui lui-même, aussitôt qu'il est advenu, disparaît pour devenir passé. Nous avons remarqué au passage que, c'est le cas de le dire, que le passé étant passé ne passe plus. D'accord ? Donc déjà, sur les trois moments du temps, il y en a un qui passe plus. Bon. Je laisse ce détail de côté et je conviens de dire que ce que j'appelle le passage du temps, c'est ce transit qui fait passer le futur vers le passé. D'accord ? Alors, comme vous le savez, il n'y a pas de définition du temps, mais je peux supposer, à titre d'expérience de pensée, que le temps, c'est cette chose qui renouvelle l'instant présent. C'est une définition que je propose. Le temps fait son travail en remplaçant chaque instant présent qui vient d'apparaître par un autre instant présent qui occupe sa place. D'accord ? Et sachant que ce travail de renouvellement ne cesse pas, est-ce que j'ai le droit de dire que le temps passe ? Non. En l'occurrence, ce qui passe, c'est la réalité. Et le temps qui l'a fait passer ne passe pas, puisque la réalité ne cesse pas de passer. Autrement dit, en disant que le temps passe, je commets peut-être la même erreur que celle que je commettrais si je disais qu'un chemin chemine. Je confonds l'objet et sa fonction. Un chemin ne chemine pas, il permet à des promeneurs de cheminer. Le temps ne passe pas, il fait passer la réalité. Vous voyez comment on peut arriver à cette conclusion un peu bizarre, que le temps échappe au changement, soit à partir de jeux de langage comme ceux que je viens de faire, qui sont pas très intéressants parce qu'on peut toujours les contester, et notamment contester l'hypothèse d'où j'étais parti, mais simplement en regardant les équations de Newton. Le temps est homogène, il ne dépend pas de lui-même, et donc il y a quelque chose qui vient provoquer nos discours réguliers et habituels sur le temps, notre façon de parler du temps sans qu'on s'en rende compte, déploie ce qu'on pourrait appeler une métaphysique du langage quotidien, c'est-à-dire que notre façon de parler détermine notre façon de penser le temps de façon qui peut être parfaitement fausse. Je ne dis pas qu'il faut faire une police du langage et critiquer notre façon de parler. On ne va pas changer des phrases qui sont répétées depuis des millénaires, le temps coule, etc. On ne va pas renoncer à cette façon de parler. Mais il faut avoir, conscience qu'il y a une sorte d'écart entre le dire et le dit. Alors, ces phrases nous permettent de nous comprendre sans que cela prouve que nous avons véritablement accès à la véritable nature du temps. Alors simplement, pour répondre à votre question, je dirais que je ne sais pas ce que c'est que le temps, mais je pense qu'on peut le définir de façon négative. Alors les philosophes, ils appellent ça une démarche apophatique. Je ne vous dis pas ce que c'est que le temps, mais je vous dis ce qu'il n'est pas. Ben, le temps, c'est pas le mouvement, c'est pas la vitesse, c'est pas la mort, c'est pas l'accélération, c'est pas le devenir, etc. Le temps, c'est cette sorte de chose de nature problématique dans laquelle nous ne pouvons pas voyager. Voilà. Alors, vous allez me dire, ça tue la science-fiction? Et je répondrai oui.
Je ne pense pas que ça la tue.
On peut pas voyager dans son temps propre, hein. On peut voyager dans le temps des autres, mais dans son temps à soi, c'est mort.
Justement, la science-fiction, c'est peut-être le moyen de voyager dans le temps.
Et j'avais écrit un livre sur le temps qui s'appelle « Les Taquis de Chronos », et pour être, sérieux, j'ai lu une quinzaine de romans de science-fiction qui racontent des voyages dans le temps. Ripley, les bouquins de Greenwood, évidemment, commençons par le bouquin de Wells. Il n'y a pas de roman de Jules Verne qui raconte des voyages dans le temps. C'est ça qui est intéressant. Il y en a chez Wells, pas chez Jules Verne. Puis beaucoup d'autres, notamment d'auteurs américains. Et c'est absolument passionnant. Simplement, il y a toujours un moment où ça va pas. C'est-à-dire, il y a toujours un moment où le livre devient illisible. Et ce moment, c'est celui où vous comprenez qu'il est en fait impossible de raconter un voyage dans le temps. La seule chose qu'on peut raconter, c'est le voyage d'un temps dans un second temps. Et donc, pour qu'il y ait un voyage dans le temps, il faut qu'il y ait le temps du voyageur temporel, disons celui qui indique sa propre montre, Et puis le temps dans lequel il voyage. Si ces deux temps sont confondus, il n'y a plus de voyage dans le temps. N'allez pas me dire qu'on voyage dans le temps simplement parce que nous allons demain être demain. Ça, c'est un voyage dans le temps qui est provoqué par le cours du temps lui-même. C'est pas un décalage par rapport au cours du temps. Donc, pour qu'il y ait un voyage dans le temps, il faut qu'il y ait deux temps différents. Et c'est là que ça pose problème. Il y a un problème d'incohérence, si vous voulez. Et puis, d'une façon générale, si vous prenez un cas de voyage dans le temps assez classique, c'est-à-dire un voyageur temporel va, par exemple, disons vers le passé. Déjà, il faut être sûr que le passé existe encore. Pareil pour l'avenir. Voyager dans l'avenir, c'est intéressant, mais si l'avenir, c'est le néant, vaut mieux attendre qu'il apparaisse pour y voyager. Auquel cas, on n'y voyagera plus, d'ailleurs. D'accord ? Donc déjà, l'idée même de voyage dans le temps suppose qu'on accorde un statut ontologique au passé et au futur qui soit le même que celui qu'on accorde au présent. Alors, il y a des conceptions du temps, comme celle qu'on appelle l'univers Bloch, qui est la thèse à laquelle adhère Einstein, qui sont compatibles avec ça. C'est l'idée que l'espace-temps existe de toute éternité, et c'est nous, voyageurs dans l'espace-temps, qui créons l'impression que nous avons que le temps passe. Et là, le présent, c'est simplement le lieu dans l'espace-temps de notre présence. Nous sommes présents à Nantes, ça n'empêche pas que Rennes... Enfin, non, je vais pas prendre Rennes, je vais prendre... qu'est-ce qu'il y a comme ville dans le coin Brest. Brest et Strasbourg existent en même temps, mais nous n'y sommes pas présents. Et selon eux, selon ces physiciens, c'est la même chose pour l'espace-temps. Tous les événements du futur et du passé existent, mais nous ne sommes présents qu'à ceux où nous sommes présents. Et c'est ces événements-là qu'on appelle les événements présents. Bon. Donc dans cette conception-là, vous pouvez imaginer voyager dans le futur aussi bien que dans le passé, puisqu'ils existent en permanence. Bon. Mais il y a d'autres interprétations dans lesquelles le passé, c'est le néant. Et le futur, c'est le néant. Quelqu'un ne peut pas y voyager. Mais je suppose que le passé existe encore quelque part, où nous ne sommes pas présents, et qu'un voyageur temporel va pouvoir s'y rendre. Donc déjà, il y a une sorte de décalage entre lui et le temps, au sens où il va pouvoir glisser le long de l'axe des temps. Il va, par exemple, assister à la bataille de Vercingétorix, à Alésia. Alors là, il y a deux solutions, deux hypothèses. Ou bien il voit la bataille en tant que spectateur, comme s'il était au cinéma, sans pouvoir interagir avec les événements. Bon, à ce moment-là, on n'a pas grand-chose à dire. On peut imaginer voir le passé par je ne sais quel artifice, et si on ne modifie pas le passé qu'on voit, ça n'a donc pas d'effet sur la suite des événements, et il y a une certaine cohérence qui est maintenue. Si en revanche, vous accordez à ce voyageur temporel le pouvoir d'agir sur les événements auxquels il assiste. Il va par exemple pouvoir confier une mitrailleuse à Vercingétorix, avec le mode d'emploi, ou même s'en servir lui-même dans la bataille. Et si c'est le cas, l'issue de la bataille va être complètement changée. César va se prendre une raclée, les Gaulois vont gagner, ce qui va complètement modifier les mouvements de population qui vont se dérouler par la suite, qui seront différents de ce qu'ils ont été dans la vraie histoire, où c'est César qui a gagné, pas Vercingétorix. D'accord ? Et rien ne vous garantit que ces mouvements de population différents de ce qu'ils ont été dans la vraie histoire ne vont pas aboutir à une situation qui empêchera votre père de rencontrer votre mère. Autrement dit, en changeant un événement du passé, vous changez la suite de l'histoire. Et vous pouvez, ce faisant, en retirer de l'histoire l'événement dont vous êtes l'effet, la rencontre de vos parents. D'accord ? Donc vous voyez que ça pose des problèmes comme ça, qui sont liés à ce qu'on appelle la causalité. Et en physique, toutes les théories physiques s'appuient sur le principe de causalité, qui ne dit plus que tout événement est l'effet d'une cause qui le précède, c'est un peu plus subtil. Le principe de causalité, il dit simplement que si un événement a eu lieu, il sera éternellement vrai qu'il a eu lieu. Voilà. Donc, même s'il n'y a pas de témoins, même s'il y a des gens qui nient qu'il a eu lieu, s'il a eu lieu, il a eu lieu. Vous ne pouvez pas défaire le passé. Et il se trouve que ce principe de causalité a en physique des implications qui sont tout à fait spectaculaires. C'est par exemple cet argument qui a permis à Paul Dirac, à la fin des années 20, de prédire l'existence de l'antimatière. L'antimatière, c'est les antiparticules, c'est cet objet dont il a prédit l'existence pour garantir la causalité dans une théorie physique qui essayait de décrire des particules à la fois très rapides et très petites, et donc il devait pour cela, pour pouvoir les décrire, marier la physique quantique et la relativité. Et bien dans un contexte qui est à la fois quantique et relativiste, il faut des antiparticules pour que la causalité soit respectée. Et donc, l'existence qui, depuis cette époque, a été confirmée des antiparticules est la preuve qu'on ne peut pas voyager, en tout cas on ne peut pas défaire le passé, et on ne peut donc pas voyager dans le passé de façon active. Et ça, c'est un résultat qui correspond en physique à une véritable découverte philosophique négative. Et donc, je pense que ce serait intéressant de voir si on peut raconter une histoire de voyage dans le temps sans mettre en cause ou en scène plusieurs temps différents. Est-ce que c'est possible? Ça reste à prouver, à mon avis.
Oui, effectivement. Mais puisque vous avez légèrement abordé le thème de la matière, de l'antimatière, je vous propose maintenant, si vous le voulez bien, de discuter un petit peu sur la physique, donc la matière elle-même, et en particulier, je crois que vous vous intéressez beaucoup à la physique quantique. Elle a soulevé des discussions, elle a fait réfléchir beaucoup de savants. Vous êtes maintenant héritier de toutes ces réflexions, en plus avec une vision un peu philosophique de la chose. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Nous expliquer un peu ce qui se cache derrière la matière.
Je peux vous parler de ce que vous voulez, mais la question, c'est qu'est-ce que je dise ? C'est la physique quantique. Disons, moi, je me suis intéressé quand j'étais plus jeune. J'étais absolument fasciné par la physique quantique et j'ai été formé aux questions d'interprétation que vous avez évoquées par un monsieur que je respecte beaucoup, qui est Bernard d'Espagna, qui m'avait régulièrement, on se voyait tous les week-ends, il me donnait des cours sur les questions d'interprétation telles qu'elles avaient été soulevées par les pères fondateurs eux-mêmes de la physique quantique. Je pense à Einstein, à Bohr, à Heisenberg, Schrödinger et tous les autres. Et en fait, il me donnait des lectures d'articles ou de livres qu'ils avaient écrits, puis on en discutait ensemble. Et ça m'a évidemment passionné, mais je dirais ça m'a trop passionné. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête parce que, d'abord, j'observais que ceux qui s'intéressaient à ces sujets trop longtemps devenaient fous. Et en effet, si vraiment vous voulez prétendre, comprendre intimement la physique quantique, en fait, vous devenez fou. Et il y a un moment, il faut accepter de lâcher prise et considérer, en tout cas, ça a été mon cas, que les équations de la physique quantique sont plus intelligentes que nous. C'est-à-dire, elles disent des choses que nous ne sommes pas capables de comprendre avec des concepts habituels ou avec les mots de la langue courante. Mais en gros, ce qui est fondamental en physique quantique, c'est ça qui fait la rupture avec la physique classique, et c'est ça qui la rend difficile à comprendre, c'est que c'est une physique qui universalise l'addition. C'est-à-dire, elle dit que vous pouvez tout ajouter. Alors, l'idée de départ, c'est qu'on décrit les objets, disons les particules, par des entités mathématiques qui vont représenter l'état physique de ces objets. Alors ces entités mathématiques, on peut les appeler comme on veut. Par exemple, on peut leur donner le nom des lettres de l'alphabet, A, B, C, D, etc. Et donc vous avez un électron, c'est votre système, et vous voyez qu'il peut se trouver dans l'état A. Alors l'état A, ça peut être par exemple l'électron qui est à cet endroit avec un spin positif. Mais vous voyez aussi que cet électron, il peut être représenté par l'état B. Alors l'état B, c'est l'électron ici, à un autre endroit, avec le spin négatif. Et bien la physique quantique vous dit que si votre système peut être dans l'état A ou bien dans l'état B, alors il peut être dans l'état A plus B. A plus B. Bon. Et toute la question, c'est que veut dire le plus ? Alors les gens ont dit, mais plus, ça veut dire que c'est une sorte de moyenne entre A et B. A c'est ça, B c'est ça, donc A plus B c'est le milieu. Et en fait non. Après, ça serait trop long à expliquer, mais la bonne interprétation, c'est de dire que cette situation A plus B correspond à une situation qu'on ne peut jamais observer en tant que telle. Simplement, si je décide de mesurer la position de l'électron qui est dans A plus B, j'ai une chance sur deux de le trouver là, et j'ai une chance sur deux de le trouver là. C'est tout. Vous ne pouvez pas en dire plus. Simplement, évidemment, si vous trouvez l'électron ici en A, vous allez vous dire, mais puisqu'une mesure ne fait que cartographier la réalité, si je le trouve en A, c'est que avant la mesure, il était déjà en A. Et du coup, la physique quantique, elle marche pas, elle est incomplète. Parce que la physique quantique, elle m'a dit qu'avant la mesure, il était dans A plus B. Alors qu'elle aurait dû me dire qu'il était dans A. Comme elle ne me l'a pas dit, ça veut dire qu'il lui manque des informations. Qui, si elle les avait, me permettrait de prédire avec certitude dans quelle position je vais trouver l'électron. Donc ça, c'était par exemple la conception d'Einstein, de Breuil, de beaucoup d'autres, qui refusaient ce qu'on appelle l'indétermination quantique. Et il se trouve qu'il y a des expériences qui ont été menées par Alain Aspect et puis beaucoup d'autres, notamment par Serge Haroche, qui vient d'avoir le prix Nobel, qui ont montré qu'on n'avait pas le droit de dire ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'avant la mesure, l'électron, il est dans l'état A plus B. Et c'est la mesure que je fais qui l'oblige à prendre position, au sens propre du terme et au sens figuré. Il n'avait pas de localisation précise avant la mesure, mais le fait que je mesure sa position qu'il n'a pas, l'oblige à en prendre une. D'accord ? Alors une fois que je vous ai dit ça, si tant est que vous m'ayez compris, posez-vous la question, qu'est-ce que veut dire être réel ? Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus.
Merci, c'est formidable. On vous écouterait pendant des heures.
Et moi, je ne pourrais pas parler pendant des heures.
Je vais vous demander encore de parler pendant un petit quart d'heure. Je vous ai posé quelques questions, vous avez répondu de manière extraordinaire. Je pense que le public a certainement d'autres questions à vous poser. Et en fait, l'objet de cette conférence était de faire une rencontre avec Étienne Klein. Donc, je propose au public de rencontrer Étienne Klein en posant ses questions. On peut aborder
la moitié. Bonjour monsieur. Donc on sait effectivement qu'en physique les deux grands chantiers, c'est la conciliation de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Je vous pose la question à vous, monsieur Klein. Supersymétrie ou théorie des cordes ?
Bon, vous savez que la théorie des cordes, on l'appelle la théorie des supercordes. Et le super est bien la supersymétrie. Donc si la supersymétrie est disons falsifié par l'expérience, et vous savez que le CERN avec le LHC n'a pour l'instant vu aucun signal supersymétrique, on n'a pas trouvé de particules supersymétriques, et si cette supersymétrie existe quelque part, elle est brisée à des niveaux d'énergie très élevés auxquels on n'a pas eu accès expérimentalement. Donc ça ne veut pas dire qu'elle est morte, ça veut dire que si c'est une vraie symétrie, en tout cas, elle est brisée à des énergies pour l'instant inaccessibles. Bon, la théorie des cordes, c'est un bon candidat, mais la physique doit demeurer une science expérimentale, donc il faut faire des tests. Et comme vous le savez, on a du mal à tirer des prédictions de la théorie des supercordes. Et on a du mal à réaliser expérimentalement des situations qui permettraient de les tester. Hein. Disons que dans la théorie des cordes, il y a juste un truc qui me gêne un petit peu, mais c'est pas un argument. C'est juste... plutôt, c'est un argument que je qualifierais d'esthétique. C'est pas du tout une preuve, donc... Ne considérez pas que je suis en train de dire qu'elle est fausse. C'est simplement un truc qui me semble mériter un peu plus d'argumentation. C'est que, comme vous l'avez dit vous-même, le but de ces théories, c'est de marier la physique quantique et la relativité générale. Ou bien de les dépasser pour fournir un cadre théorique qui permette de les mettre dans le même sac. Or, la physique quantique, elle s'appuie sur ce qu'on appelle la théorie quantique des champs, qui part de l'idée que l'espace-temps est substantiel. Substantiel, ça veut dire que c'est une substance particulière. En gros, pour la physique quantique, c'est comme pour Newton. Hein. Il y a deux sortes de choses dans l'univers. Il y a l'espace et le temps, disons l'espace-temps, qui est d'une nature particulière. Et puis, il y a les objets physiques qu'on vient mettre dedans, qui sont d'une autre nature. Mais l'espace-temps, il a sa nature à lui. Il est une substance d'un type particulier qui existe dans l'univers. Et toute la physique qui va suivre, mécanique quantique, théorie des champs, et même relativité restreinte, excusez-moi, s'inscrit dans cette conception. L'espace-temps est substantiel. Mais arrive en 1915 la relativité générale d'Einstein, nouvelle théorie de la gravitation, qui n'est pas une théorie générale, contrairement à ce que son nom indique, c'est une théorie spécifique de la gravitation. Elle ne décrit qu'une seule des forces, qui est la gravitation. Mais pour elle, l'espace-temps n'est plus substantiel. C'est un objet physique, solution d'une équation. C'est donc, il devient, en termes techniques, il devient relationnel. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'il préexiste à la matière, contrairement à ce qu'il était chez Newton. Okay ? Or, la théorie des cordes n'entend pas ce message de la relativité générale. Elle repart sur l'idée que l'espace-temps est substantiel, avec simplement un nombre de dimensions qui est plus grand que 4. On ajoute des dimensions supplémentaires, mais on garde l'idée qu'il est substantiel. Et ça contredit ce que Dawkins interprète comme le message essentiel de la relativité générale. Et donc on peut se demander si c'est une bonne voie ou pas. Voilà, c'est juste le truc qui m'interroge, et quand j'en discute avec des théoriciens qui travaillent sur ces questions, on en a beaucoup à l'Institut de physique théorique à Saclay, ils reconnaissent que c'est pas clair, mais ils s'appuient sur les résultats que permet par ailleurs d'obtenir la théorie des cordes. Donc peut-être que mon argument n'est pas du tout correct. Et pour trancher la question, il ne faudra pas s'appuyer sur des arguments esthétiques comme celui-là. Il faudra des données. Et il faudra des données suffisamment claires pour pouvoir tuer des idées. Par exemple, le LHC pourrait tuer la supersymétrie. C'est possible. C'est peut-être en train de se faire. Mais on a trop d'idées. Il y a trop d'idées et pas assez de données.
Bonjour Monsieur Klein. Je voudrais revenir sur la discussion du temps que vous avez fait tout à l'heure. Et vous nous avez parlé des différentes visions du temps, mais je voudrais savoir ce que vous pensez de, par exemple, dans la gravitation quantique à boucle, si je me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, celle-ci suggère que le temps n'existe pas. Et je voudrais savoir ce que vous pensez de cette non-existence du temps.
Bon, très bonne question, que vous n'êtes pas le premier à me poser, comme si beaucoup de gens voulaient que ce soit la fin de ma carrière. Alors, Carlo Rovelli, qui est un des promoteurs de la théorie quantique à boucle, avec Hachetecard et Lismolin et d'autres, vient de sortir un livre qui s'appelle « Et si le temps n'existait pas ?» Bon. Alors, ça pose pas mal de questions. Par exemple, nous savons aujourd'hui que le temps n'est pas newtonien. Bon. Mais ça n'est pas parce que le temps n'est pas newtonien qu'il n'existe pas. Il a simplement d'autres propriétés, notamment dans son lien avec l'espace, que ce que Newton avait envisagé. Bon. On sait même que la théorie de la relativité restreinte, à très petite échelle, au niveau de l'échelle de Planck, comme on dit, sans doute a des problèmes, justement parce qu'elle propose un espace-temps substantiel. Bon. Et donc, il se peut tout à fait que l'espace et le temps n'aient pas les propriétés que leur attribuent aujourd'hui les théories opératoires de la physique. Et ce que j'appelle les théories opératoires, c'est théorie quantique des champs, relativité générale. Okay. Et dans la théorie quantique à boucle, comme vous le savez, l'espace-temps est granulaire. Et l'idée de base, c'est qu'un volume d'espace-temps ne peut pas avoir une valeur quelconque. Il est nécessairement un multiple entier d'un volume élémentaire de volume non nul. Ce qu'ils appellent un atome d'espace-temps. Okay, qui est caractérisé par la constante de Planck. Donc c'est des volumes minuscules. Et si d'ailleurs vous voulez donner du prix à votre appartement que vous voulez vendre, vous pouvez exprimer sa surface en aire de Planck et vous verrez que ça en fait beaucoup. Bon, voilà. Bon. Et en fait, dans leur théorie, il n'y a plus l'espace-temps lissé continu de la physique, il y a simplement des événements qui sont causalement reliés. Et donc, vous avez des événements, vous n'avez pas le droit de dire qu'ils se déroulent dans l'espace et dans le temps, vous avez des événements que vous allez connecter les uns aux autres par des flèches causales, en disant, voilà, cet événement, il est causalement relié à celui-là, etc. Et dans cet inframonde qu'ils décrivent, dans lequel il n'y a pas d'espace et de temps explicite, vous allez construire des chemins entre événements. Et ces chemins sont, ils le disent eux-mêmes, des relations d'ordre entre événements. OK ? Qu'est-ce qui empêche de dire que ce chemin, c'est le temps ? Autrement dit, ça n'est pas parce que l'espace-temps de la physique habituelle n'existe plus que l'espace-temps n'existe pas. Ce qui est falsifié dans ces théories-là, c'est une certaine représentation de l'espace et du temps. Mais, vous voyez, on tombe sur un problème qui est intéressant, c'est que si vous dites « le temps n'existe pas », c'est comme quand vous dites que Dieu n'existe pas. Il faut deux choses. Il faut d'abord dire très précisément ce que vous entendez par « exister ». Ensuite, si le temps n'existe pas, il faut que vous disiez ce qui existe. Et ce qui existe, si le temps n'existe pas, vous devez pouvoir le dire sans jamais faire référence à l'idée de temps. Ce qui n'est pas le cas des livres de Smolin et de Revelli, puisqu'ils parlent de transformation, de changement, d'évolution. Donc ils ont un vocabulaire qui est temporel. Et donc, pour expliquer que le temps n'existe pas, il faut avoir un vocabulaire qui soit sans temps, sans référence au temps. Et enfin, ça c'est le problème le plus intéressant, pour pouvoir dire que le temps n'existe pas, il faut très précisément dire ce qu'est le temps. C'est comme pour dire que Dieu n'existe pas. Pour dire que Dieu n'existe pas, il faut exactement savoir qui est Dieu. Il faut le caractériser complètement. Par exemple, si vous croyez en un Dieu qui dit que l'atome n'existe pas, en trouvant l'atome, vous montrez que ce Dieu soit n'existe pas, soit s'est trompé. Mais vous pouvez imaginer un Dieu qui n'a pas d'idée sur l'atome, par exemple. Ou qui a annoncé que l'atome existe et là, il ne s'est pas trompé. Et c'est pareil pour le temps. Pour dire que le temps n'existe pas, il faut savoir ce qu'est le temps. Et ma question est, comment savoir ce qu'est le temps si le temps n'existe pas ? Ouais. Donc ça, c'est des problèmes un peu logiques. Mais moi, je me méfie d'une façon générale des discours un peu publicitaires. Tout le monde a envie de penser que le temps n'existe pas sans du tout savoir ce que ça veut dire. Parce que le temps n'existe pas, ça pourrait vouloir dire, ou le temps s'arrête, par exemple, ça peut dire que le présent disparaît. Et donc l'arrêt du temps ou la disparition du temps, ça pourrait être la chute dans le néant. Enfin, si vous voulez, ça pose trop de questions pour qu'on puisse accepter le slogan comme s'il allait de soi.
Bonjour Monsieur Klein, moi je voudrais savoir quelles sont éventuellement les implications négatives en termes philosophiques de la découverte du boson de Higgs, s'il y en a, et si vous avez commencé déjà à réfléchir à la question.
Ah ben, on a non seulement réfléchi, mais on a travaillé avec les physiciens du CERN depuis des années là-dessus. Et bien justement, le boson de Higgs est vraiment une découverte philosophique négative de première importance, au sens où ça change le statut de la masse. La masse des particules élémentaires, je parle des élémentaires parce que les particules composites auraient une masse même si le boson de Higgs n'existait pas. Une masse qui vient du fait qu'il y a plusieurs corps dans le proton, par exemple, il y a plusieurs quarks, et que l'énergie d'interaction par E égale MC2 fait de la masse. Mais les particules élémentaires, si le boson de Higgs n'existait pas, n'auraient pas du tout de masse. Et le statut de la masse est complètement modifié, au sens où, au lieu de dire que la masse des particules leur appartient en propre, il faut dorénavant dire qu'elle résulte de leur interaction avec le vide, avec leur environnement. En fait, c'est exactement comme Galilée. Je vous ai dit tout à l'heure, ce qui fait que les corps tombent à des vitesses différentes, c'est que des corps de masse différentes interagissent avec leur environnement, c'est-à-dire l'air, de façon différente, qui modifie leur vitesse respective. D'accord ? Donc c'est l'interaction avec l'environnement qui crée les différences que nous percevons. Et bien là, c'est la même chose avec le boson de Higgs. C'est l'interaction des particules avec leur environnement, qui en l'occurrence est le champ quantique de Higgs, qui crée les différentes masses que nous leur affectons. D'accord. Donc la masse est une propriété secondaire des particules et non plus une propriété primitive. Il n'y a plus de corrélation directe entre la notion de masse et la notion de matière. Donc il faudrait changer ça dans les manuels, dès le collège, mais je vous rassure, ça ne se fera pas.
Pas tout de suite. Y a-t-il une autre question ? Monsieur Bleu.
Oui, c'est encore moi, veuillez m'excuser. Bon, c'est vrai qu'on est au Festival international de science-fiction, donc je voudrais recadrer un peu les choses éventuellement. Et vous posez une question par rapport à l'article que vous avez publié dans Humain, interrogé par Roger Paul Droit, sur les nanotechnologies. Et donc, un petit peu, quelle est votre vision du futur et, entre guillemets, du transhumanisme ?
Le transhumanisme ? Bon, il faut rappeler ce que c'est le transhumanisme. C'est l'idée que l'innovation technologique, notamment par le biais des nanosciences ou d'autres secteurs, va permettre à l'homme d'accélérer son évolution, au sens darwinien du terme, en comptant non pas seulement sur la sélection naturelle, mais sur l'innovation technique. Et que, de plus en plus, les corps humains, notamment les cerveaux, vont être emplis d'objets techniques, de sorte que l'homme deviendra un être hybride, un mélange de nature et de technique, qui va augmenter ses performances, bon, intellectuelles, psychologiques, physiques, etc. Bon, il y a deux façons de répondre. On peut dire que, d'une certaine façon, les post-humains existent déjà. C'est-à-dire un type qui est capable de monter l'Alpe d'Huez en vélo, en développement pendant 22 minutes 450 watts de puissance, c'est une sorte de post-humain. C'est-à-dire personne ne peut faire ça sans... Enfin, en marchant à l'eau claire, comme on dit. Donc, on est capable d'augmenter les performances physiques du corps humain. Vous savez ça aussi bien que moi. Les performances psychologiques aussi. Il y a des drogues qui permettent à des soldats, par exemple, de ne pas dormir pendant 3 jours, sans éprouver la sensation de sommeil. Bon, mais le post-humanisme, ça va beaucoup plus loin. Ça laisse entendre qu'on va traverser une singularité et donc basculer vers une nouvelle espèce qui n'aura pas du tout le même statut vis-à-vis de la mort, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la matière, corporelle notamment, que l'Homo sapiens d'aujourd'hui. Bon. Leur idée, c'est que l'humanité est déjà morte, l'humanité est déjà condamnée, on s'est planté, on a fait la Shoah, etc. Et donc, on est une espèce de survivance d'une entité, l'humanité, qui en fait est déjà liquidée. Et donc, il faut passer à autre chose. C'est ça leur discours. Bon. Est-ce qu'on y arrivera ? J'en sais rien. Mais la question que je me pose, moi, c'est que, évidemment, il est exclu que cette transition soit universelle. Au sens où tout le monde ne va pas immédiatement et au même moment bénéficier d'une médecine permettant d'éliminer la mort ou de la reculer indéfiniment. Et donc, il y aura au sein de l'humanité coexistence de deux espèces, les post-humains et puis nous. Et en fait, si vous voyagez un peu, vous savez que ça existe déjà. Que les modes de vie des gens comme nous qui avons accès à une médecine efficace et à certains revenus de confort, nos conditions de vie n'ont rien à voir avec celles des gens qui vivent avec $1 par jour. Donc au sein de l'espèce humaine, nous formons toujours une seule espèce, mais avec des conditions de vie tellement différentes qu'on peut se demander si ça va se maintenir en l'état. Et si un jour, il n'y aura pas un splitting de l'espèce entre ceux qui ont des moyens, dont les conditions de vie seront tellement différentes des autres qu'ils auront une condition humaine différente de celle des autres. Et donc la question éthique, c'est, en admettant même qu'un jour il y ait des post-humains, est-ce que ces gens se diront « nous sommes des post-humains, mais rien de ce qui est humain ne nous est étranger » Autrement dit, il y aura encore des liens d'empathie dans l'humanité. Ou est-ce qu'ils diront « nous sommes des post-humains » Et les humains sont des cons. Ben, les homo sapiens sont des attardés. Je vous laisse réfléchir à ça. C'est ça l'enjeu éthique. Maintenant, je vous invite à vous méfier des discours contenant trop de promesses. Le rapport américain qui a lancé les nanosciences, le rapport de 2002, écrit par deux physiciens délirants qui s'appellent Rocco et Benbridge, est un rapport délirant. Puisque dès la première page, ils annoncent que grâce au nano, on va résoudre tous les problèmes de l'humanité. On va garantir la paix perpétuelle, on va éliminer les maladies, on va estomper la frontière entre les langues, etc. On va résoudre les problèmes d'énergie. Quand on promet trop, on prend le risque et même l'assurance de décevoir.
Bien. Sur ces mots, je vous propose de mettre fin à cet entretien passionnant. Nous vous retrouverons un peu plus tard dans la journée. Merci donc à vous d'avoir été là et merci à tout ce public de nous avoir écoutés.